Tente comme un agneau.
Je te regarde aussi, c'est vrai que t'as changé. Hein?
J'essaie d'y aller par étapes, t'sais.
Boulevard. 102.1.
En espérant que vous passez un bon début d'après-midi, merci d'être sur les ondes de Boulevard 102.1. Oui, un barbecue. 900 PO2, ça se dit pas, j'allais dire 900 pouces carrés.
T'étais où à ce moment-là?
C'est parce que c'est pas facile. Hein. C'est tout dans ma tête, toutes ces histoires-là. Puis des fois, j'ai des petites références que je peux lire pendant les lives. Puis là, ben, j'ai juste lu le 900 PO2.
Non, ça c'est, on s'en va à circulation.
Ouais, exact. On est de main. On est un peu mêlés une fois de temps en temps. Ouais. C'est pas lundi. Normalement, on peut dire que c'est lundi. Là,
non, mais c'est vrai que je suis revenu, je te tire du jus.
Exact.
Hey, mais elle vient de l'avouer non, elle-même.
Non, j'ai rien avoué, je donne une petite arme parce qu'elle était smart.
Je pense que tout le monde est au
courant. Mais Louis, sais-tu, il m'a écrit pendant mon voyage. Il était fin, Yannick. Il a un cœur tendre.
Ah oui?
Mmh. C'est juste qu'il fait dans le dos de tout le monde. En ondes, pas la même chose.
Mais sa tendresse est relative.
C'est ça.
Une tendresse relative. Exact.
Hey, un petit ralentissement. Vous précisez Laurentienne, direction sud, l'embranchement pour aller chercher la capitale, direction ouest, c'est au rouge en ce moment.
La merveilleuse voix de Louis Gauthier est en studio. Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut!
Hey! Oh baby, bonjour Québec! Parce que c'est un clin d'œil que je fais à Bob Cole, qu'on a perdu cette année, la voix anglaise de Hockey Night in Canada. Lui, il en lâcherait des Oh Baby depuis une semaine là, avec ce qui se passe avec notre équipe canadienne qui est toujours en vie.
Les Oilers, ben oui, toi, t'as jamais perdu foi en tes Oilers. Moi, c'est mon désir, c'est que les Oilers gagnent la Coupe Stanley, mais je vais être très honnête avec toi. J'étais persuadé hier que les Panthers allaient finir ça. Puis même quand c'était 3-0 pour les Oilers, je me disais que les Panthers allaient revenir. Quand même un super bon match, là. Je sais pas si tu l'as vu, là, mais c'était exceptionnel comme match.
Vous venez de savoir qu'est-ce que c'est une tornade des prairies.
Que dire de Connor McDavid, qui est le meilleur joueur de hockey au monde. C'est probablement lui qui va gagner le trophée. Ben oui. McJesus, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Hey, on a-tu quelque chose à craindre du fait que Poutine est allé faire un tour en Corée du Nord puis ont signé des ententes, lui et son chum Kim Jong-un?
Écoute, je te dirais, les ennemis de tes ennemis sont mes amis. Et c'est ce que Vladimir Poutine est allé faire. Il est allé consolider ses ententes tactiques avec la Corée du Nord. La parade de bateaux qui se fait au large des côtes de Cuba, je t'annonce que ça va rester collé là, même s'il n'y a aucun danger, juste pour écœurer les Américains. Deux événements internationaux auxquels on a dit à Vladimir Poutine « Thanks but no thanks », parce que le G8 avant, le G7 s'appelait le G8 parce que la Russie en faisait partie. La Russie n'en fait plus partie. Il a voulu présenter un plan de paix pour finir le conflit en Ukraine, puis c'était pas compliqué, parce qu'il est prêt à céder, contre toute attente, il est prêt à céder les terres ou les États qu'il a conquis depuis le début de la guerre dans l'est de l'Ukraine, mais ayant comme condition unique que les droits religieux soient respectés par le gouvernement ukrainien, parce que ces gens-là sont... Les gens du Donbass et de tout ce coin-là sont vraiment rattachés à l'Église orthodoxe de Moscou. Ensuite de ça, il a demandé à ne pas avoir de missiles balistiques. Et la troisième condition, qui est la plus importante, c'est que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN. C'est ce qu'il craint le plus. Et l'entente, là, quand c'était présenté au sommet du G7 en Suisse en fin de semaine dernière, on a fait cloc, cloc, cloc avec du papier. On n'a même pas fait aucune entente, aucune contre-offre. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a déjà tous les services de l'OTAN présentement dans ce conflit-là, sauf la carte de membre.
OK.
OK.
Mais est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire partie de l'OTAN?
Ben non, la seule affaire qu'ils n'ont pas, c'est qu'un membre, lorsque tu veux devenir membre de l'OTAN, tu ne peux pas être un pays en guerre au moment où tu fais ton adhésion. Donc, il faut que ça soit en temps de paix et tout. Mais c'est très tordu ce qui se passe. De toute façon, depuis quelques années, là, c'est l'échiquier mondial ou l'ensemble géopolitique de la situation, c'est à plus rien comprendre, puis il faut démêler ça. Puis pour démêler ça, il faut ramener ça je te dirais des réponses très, très simples. Dans le cas de l'Ukraine, ce qui est important, c'est qu'on sait que c'est toutes des forces de pays de l'OTAN qui sont sur place. Il ne faut pas se surprendre qu'il y ait des ententes qui sont prises de Poutine avec Kim Jong-un concernant de l'armement qui est fourni de la Corée du Nord à la Russie pour venir dans ce conflit-là, que les Chinois donnent un support logistique à la Russie dans ce conflit-là. Et ce n'est pas pour rien non plus que Poutine a débarqué ses chaloupes puis il n'est pas trop pressé de les ramener, pour amener un peu d'essence de la baie des cochons de 1961-62 entre les Américains puis l'île de Cuba, lorsqu'on avait des missiles russes ou soviétiques à l'époque qui se tenaient pas loin de ce coin-là, à 90 000 nautiques des côtes américaines. Donc, c'est juste un stand-off qu'on est en train de faire là-bas, mais c'est pas bon ce qu'on voit présentement, surtout avec ce qui est arrivé cette nuit. Dans la mer de Chine méridionale, c'est-à-dire la mer, la portion du Pacifique qui se trouve à peu près entre l'île Philippine, les Philippines et Taïwan. Il y a eu un affrontement entre des navires chinois et des navires philippins, puis ça pourrait déclencher une guerre dans le Pacifique. Parce qu'on sait que les Chinois, eux autres, ils pensent que les Philippines, comme Taïwan, ce sont des territoires chinois. Donc, on est en train d'argumenter sur ce point-là et de démontrer notre force navale autour des îles. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a saisi des bateaux philippins. Ça a créé un malaise international. Les Américains sont intervenus en voulant dire, là, on va se calmer là partout, puis c'est pas bon. Puis on dit publiquement, on n'apprécie pas trop, on fait attention, on marche sur des œufs partout, alors que la seule et unique façon de régler le problème, c'est que quand Vladimir Poutine a fait une offre, s'il n'est pas d'accord, on fait une contre-offre.
Mais depuis le début du conflit, en fait, je me remets à il y a des possibilités que la Russie puisse entrer en guerre avec l'Ukraine pour une histoire de territoire. Du jour au lendemain, on a dit ça va prendre 3 jours, ça va être terminé, l'Ukraine va disparaître. Et là, ça fait des mois et des mois, ça fait plus d'un an le début du conflit, c'est ça?
Oui.
Puis l'Ukraine est encore en place.
Ça va faire 2 ans au mois de décembre.
Il y a encore des transactions d'argent un peu partout. Il n'y a rien qui se règle. À qui ça profite, ça? Parce que quand on nous dit que
l'industrie de l'armement.
Ben oui, je comprends. Mais quand on nous dit que la Russie, c'est une puissance mondiale, à mes yeux, à moi, du jour au lendemain, il serait capable d'éradiquer assez rapidement l'Ukraine. À qui ça profite que ce conflit-là dure si longtemps, si ce n'est que justement ceux qui font des armes, comme les Américains?
Mais présentement, sur le territoire ukrainien, tu n'as pas seulement des soldats ukrainiens, puis tous les stratèges militaires le savent. Tu as des Américains, tu as des Français, tu as des Britanniques, tu as des Espagnols, tu as à peu près tout le monde, membres de l'OTAN, qui sont sur place. C'est juste que l'Ukraine n'a pas sa carte de l'OTAN.
Je comprends, mais la Russie, là, je veux dire, il n'emploie pas tous les moyens nécessaires pour détruire l'Ukraine, là. C'est vraiment à petite dose constamment. Au départ, on envoyait des gens là qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas nécessairement d'expérience de guerre. Puis ils se faisaient avoir par des soldats ukrainiens qui, eux autres, 2 semaines avant, étaient plombiers. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe là qu'on s'explique mal quand on est de l'extérieur. Toi, tu suis ça à tous les jours. Mais quand on est de l'extérieur, on essaie de réfléchir un peu. On se dit, mais t'as peu, là, c'est une puissance mondiale. Ils sont à côté de l'Ukraine.
Ils sont pas capables de l'éradiquer rapidement.
C'est si facile de passer au travers d'eux en quelques jours.
Un gros complexe international aussi, d'ailleurs. Politique, là,
ouais. Mais rappelez-vous comment ça a commencé toute cette histoire-là. Pourquoi les Russes ont envahi la frontière est est de l'Ukraine? C'est parce que on savait que Volodymyr Zelensky, lorsqu'il allait devenir président, sa seule et unique raison d'être là, c'est demander une adhésion à l'OTAN. Puis l'OTAN avait démontré un intérêt à acquérir l'Ukraine dans son giron.
Ouais.
Donc, la seule façon... Les Russes ne veulent pas avoir un pays membre de l'OTAN à leurs frontières.
Il allait récupérer son territoire aussi suite à la guerre froide. C'était l'objectif de Vladimir Poutine là-dedans. Il y avait encore beaucoup de frustration.
Il y a ça, mais la seule et unique raison pour éviter que l'Ukraine se joigne à l'OTAN, c'était de l'inclure dans un conflit. Parce que en partant, l'OTAN n'accepte pas un pays qui est en conflit armé. Donc, Vladimir Poutine, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine, de cette façon-là, ne peut pas rentrer dans l'OTAN.
Okay. Fait que c'est pour ça que c'est ta petite dose.
C'est ça. Et aussi longtemps que l'OTAN ne mettra pas sur papier que jamais l'Ukraine va devenir un pays membre de l'OTAN...
Lui va être là, puis il va doser ses attaques.
Puis il va faire le stand-off, puis il va continuer. Puis c'est pour ça qu'il va chercher des ressources militaires, des ressources stratégiques avec ses alliés, la nouvelle force de l'Axe 2.0. À l'époque, on avait on avait dans cet axe-là, on avait l'Allemagne et l'Italie comme pays avec le Japon. Mm-hmm. C'était la force de l'axe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, maintenant, on a les Russes, on a les Chinois avec la Corée du Nord, puis même le Venezuela qui vient par le sud.
Qui est un cousin
très, très proche, là, quasiment un beau-frère marié avec la sœur de l'autre, là, qui est une Russe.
Parce que c'est toutes les transactions d'argent. Le Canada envoie de l'argent, les
non,
États-Unis...
Non, le Canada n'envoie pas d'argent. Ça, c'est l'erreur, là. Elle est là. Ça,
on a envoyé de l'argent?
Non, on n'a pas envoyé d'argent. Savez-vous d'où l'argent vient? C'est encore annoncé la semaine dernière, puis personne n'allume là-dessus. Ils ont dit qu'elle a donné 50 milliards. Il a dit qu'elle a donné 50 milliards au Canada, puis 500 milliards aux États-Unis. C'est tout de l'argent qui vient des fonds saisis et gelés des avoirs russes. Le problème, c'est que les argents ne sont pas encore saisis, puis les avoirs ne sont pas encore détenus. C'est qu'on promet de l'argent sur le portefeuille d'un autre, puis on n'a pas encore accès au portefeuille. C'est ça qui a été fait. Il n'y a aucune somme qui a été donnée. La seule somme qui est donnée par le Canada, c'est uniquement pour rapatrier des ressortissants étrangers comme les Ukrainiens quand ils viennent au Canada. Ce sont des sommes qui viennent justement des fonds les fonds d'aide aux immigrants en tant que CAIR qui viennent au Canada, puis que le Canada reçoit en moyenne 28 800 $ US par personne immigrant au Canada. C'est la seule façon que l'argent est redistribué, mais revient. Il n'y a jamais 50 milliards de dollars qui s'est donné par le Canada à l'Ukraine. C'est de l'argent qui ne vient pas des portefeuilles des Canadiens, ça vient du portefeuille saisi qu'on n'a pas encore des Russes.
Puis les Américains, eux, envoient de l'argent?
C'est la même chose.
Même technique.
C'est un discours politique. Hey, écoute, si tu te faisais, si tu avais bien de l'argent, là, puis tu te faisais saisir 550 milliards de dollars du jour au lendemain, tu graffinerais, hein, puis tu
un
parlerais.
Peu,
ouais. Pourquoi l'autre qui se fait dire qu'il s'est fait saisir 550 milliards d'argent, là?
Il n'y a aucun stress.
Il n'y a pas de stress. Il prend l'avion, il s'en va voir Minimoy en Caroline du Nord, en Corée du Nord. Mais là, je suis en train de faire du Yannick Marceau.
Ça veut dire quoi, ça?
Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Pascal?
Ben, il y a aussi toute l'origine, mais ça, c'est quelque chose qui va être difficilement à apaiser dans le futur, puis qui va peut-être aussi suivre si un jour le conflit cesse là, entre Ukraine et Russie. Il y a quand même beaucoup de problématiques personnelles avec Vladimir Poutine, qui, lui, a une idée en tête depuis qu'il est au pouvoir, puis c'est le pourquoi il est au pouvoir aussi, c'est de venger un peu la Russie dans tout ce qui est arrivé avec la guerre froide auparavant. Là.
Lui,
pour lui, c'est de retrouver ses territoires, retrouver sa puissance. Il a vraiment eu un sentiment qui lui décrit comme anti-russe à travers le monde après tout ce qui a été gagné par les Occidentaux ou encore la façon de penser qu'on a comme personne occidentale, si on veut, et européenne. Puis pour lui, il a vu tu sais, la Russie, pendant longtemps, on n'en a pas parlé ou encore quand on en parlait, on riait avec la vodka, on riait avec le fait que c'est un petit peu fermé, qui était sur eux-mêmes, mais pas à la même échelle que la Chine, que ce qu'on fait maintenant. Tu sais, c'est vu beaucoup plus négativement quand tu questionnes des gens. On fait un vox pop demain sur Vladimir Poutine et la Russie et dans tout ce qui est occidental. Il n'y a pas de valeur là, qui vont avec
qui
ça. Quand on pourrait aussi critiquer, malgré tout, l'Ukraine là, avec plein de choses, puis Pandora Papers et autres.
Mais Pascal, oublie l'Ukraine là-dedans. T'as parlé qu'il veut revoir son territoire, il s'ennuie de la Russie.
Mais depuis la Troisième Guerre mondiale, il y a une grande frustration
la
aussi.
Deuxième guerre.
Oui, excusez-moi.
Va pas trop vite.
Ça doit être la chaleur qui nous fait tout...
Là, tu fais du Louis Gauthier.
Non, mais tu dois comprendre que Vladimir Poutine, c'est un gars qui est issu du KGB, donc de l'ancienne URSS. Et il y a cette mentalité-là. Maintenant, acquérir du territoire, ils le font déjà. Voyez ce qui s'est fait dans les pays africains depuis 2-3 ans. Ils ont fourni le vaccin avec les Chinois. Ils ont apporté de l'aide logistique sur place.
Mais c'est un tout autre territoire. Pour lui, il y a encore une valeur nostalgique, une valeur sentimentale, une valeur importante par rapport à ce qui se trouvait avec l'Ukraine.
Oui, mais sa valeur s'est métamorphosée en participation économique très, très forte. C'est comme être dans une entreprise
où tu as
un conseil d'administration puis que tu achètes 50 % plus 1 des actions. C'est ce qu'il est en train de faire avec les Chinois un peu partout dans le monde, dans des pays plus faibles qui ont besoin de fonds, qui ont besoin d'armement. Ce qui est arrivé au Burkina Faso en fin de semaine, bien, il y a un petit côté russe puis un petit côté chinois là-dedans qui est venu aider parce que c'est tout de l'armement russe puis de l'armement chinois qui a servi justement à ce coup d'État qui est arrivé en cet attentat terroriste qui est arrivé en fin de semaine dernière au nord-est du Burkina Faso. Donc, on voit, ils sont en train de semer un peu partout dans le monde, puis c'est de ça qu'on devrait s'inquiéter. Puis, peut-être qu'on est passé outre mesure des fameuses stand-off diplomatiques qu'il y a dans le monde, puis qu'on lance des absurdités de la sorte, qu'on dit on va distribuer 500 milliards de dollars en aide à l'Ukraine, la belle signature que Joe Biden a faite avec Volodymyr Zelensky, qui va donner 500 milliards, mais il l'a pas. Ça vient des fonds gelés, supposément gelés, des Russes qui, eux autres, continuent à faire de la business. L'argent n'est pas encore gelé. C'est-tu pourquoi? Parce qu'il y a des tribunaux internationaux qui se penchent là-dessus. Il y a des avocats, là. Eux autres, ils font de l'argent. On parle des armements, là, mais il y a des avocats internationaux, des pays qui font bien de l'argent puis qui se débattent devant des cours de justice internationale pour éviter que ce genre de transfert d'argent-là puis ces gels-là se défont ou n'aient pas lieu.
En cours, il y a toujours un seul gagnant. C'est les avocats.
Yes, sir! C'est de cette façon-là que ça fonctionne.
Donald Trump, bon, c'est une chose. J'ai vu des images de Joe Biden. Je pense que je les ai regardées
ensemble.
Avec Thomas. On voit que Joe Biden est de plus en plus perdu. Il l'était un peu, mais là, à un moment donné, il y a des démonstrations qui se font. C'est-à-dire qu'il y a un parachutiste qui atterrit puis il est même plus capable de regarder à la bonne place. Il regarde ailleurs.
Il est accompagné de Barack Obama pour qu'il l'accompagne vers l'extérieur parce qu'il ne sait plus par où sortir.
Des gens qui le virent de bord, comme un week-end chez Bernie, qui le virent de bord pour dire, regardez, ça va être par ici, M. Biden. C'est de plus en plus difficile pour lui. Quand il a essayé de mettre ses lunettes, si vous avez vu ces images-là qui sont disponibles sur Twitter, ça semblait extrêmement lourd de les monter à son visage. Il ne se rendra pas aux prochaines élections, je ne peux pas croire.
Bien, le problème, c'est parce qu'il y a eu un petit malaise de santé cette semaine. Il est allé au barbecue de la fête des pêches chez Chuck Schumer qui a fait des hamburgers avec la viande, c'était caché, pas cuite. Ça, vous avez vu tout ça?
Mais non, je ne l'ai pas vu.
Mais oui.
Ça a fait le tour, ça a fait le talk of the town à Washington, ça, en début de semaine.
Ah oui?
Ah ben, oui. En le voyant en train de faire un barbecue, il a mis une tranche de fromage par-dessus une boulette de viande pas cuite.
Pas cuite.
Fait que là, on fait le running gag, pour ça je te dis. Mais pour te dire à quel point il est mêlé, moi, je ne parle pas du président Biden, je parle de l'administration Biden. Il y a deux semaines, ils ont dit qu'ils cessaient l'entrée des demandeurs d'asile à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Hier, il annonce qu'il va prendre les mesures nécessaires pour naturaliser les Dreamers et les parents des Dreamers. C'est ces fameux enfants qui sont nés des gens qui sont réfugiés, qui sont venus au monde aux États-Unis. Ça fait des années, ça avait commencé sous Barack Obama. Puis là, ben, il a décidé de finir la job. C'est le même qu'il dit, on va finir la job. Donc, naturaliser des Dreamers en période électorale présidentielle, faites l'équation, c'est pas rien.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, il veut acheter des votes.
Bien, c'est ça. Il veut acheter des votes. Fait qu'on est en train de se plaindre d'un autre candidat qui lui dénonce, d'un autre candidat qui... Ça, si c'est pas modifier le résultat d'une élection, faire ce qu'il fait là, ben pourquoi l'autre s'est fait accuser de modifier une élection?
Ben, je sais pas. Moi, ma question, c'est par rapport à sa santé. Canada, ça ne nous touche pas nécessairement, mais moi, je regarde les images. Parce qu'il y a des images qui sont diffusées par les médias, qui sont choisies, puis tu vois qu'il n'y a pas de l'air si pire. Mais quand tu vois des images d'un Biden qui est beaucoup plus loin dans l'écran, dans un contexte différent, où là, il n'y a pas l'impression qu'il est filmé, c'est d'une tristesse. Puis je me dis jusqu'à quel point l'homme le plus puissant de la Terre ressemble à ça.
Puis je me demande aussi, tu sais, des fois, tout ce qui est caractérisé à la politique, de ne pas atténuer ce que Joe Biden pourrait être, mais en même temps, c'est la vérité, fait qu'il faudrait que tu le montres. Puis aussi, la portion de ce qu'on va démontrer à l'international dans notre puissance. Tu sais, je me dis, peut-être qu'ils ne veulent pas nécessairement descendre les États-Unis avec la vérité en ce moment, en même temps que le propre parti, puis les démocrates ne veulent pas se descendre entre
eux.
Parce
que Trump, qu'on l'aime ou on l'aime
pas. C'est en plein où je m'en allais, Pascal. Est-ce que tu veux vraiment démontrer à l'international que l'homme le plus puissant de la planète a a des problèmes de continence, a des problèmes cognitifs, a des problèmes...
Tu veux pas faire ça.
Tu veux pas faire ça.
Parce que Trump avait énormément de défauts, il avait des belles qualités aussi, mais tu sais, il y avait Rocketman qui se tenait tranquille, Poutine se tenait tranquille, parce qu'il se disait, Trump est imprévisible, on sait pas ce qu'il va faire. Les hommes et les femmes les plus puissants de la Terre se méfiaient de Donald Trump en disant... Vaut mieux pas faire suer les Américains pour ce mandat-là de 4 ans parce que ça peut se retourner contre nous autres et on ne sait pas ce qu'il va faire. Il y avait comme une certaine crainte à l'égard des États-Unis. Là, avec Biden, puis quand on le voit, on s'aperçoit que les États-Unis, c'est ce monsieur-là, puis ça commence à faire pitié. Là.
Oui, puis il a le doigt sur le piton, il a la clé pour ouvrir la valise, lui aussi, puis il y a les codes. Je suis pas sûr qu'il va y lire, c'est ça qui va nous sauver. Là.
Mais je te prendrais quand même quelqu'un d'autre que Trump, là, parce que des fois, tu me dis, tu le crains pourquoi?
Il y a
ce qu'il
n'y en a pas d'autre.
Je vais vous donner l'exemple de Trump.
Tu crains-tu Poutine?
Moi, en ce moment, comme individu.
Non, mais tu es à côté de Poutine, est-ce que tu le crains? Moi, je le crains.
Moi, je le crains.
C'est un homme énorme, très dangereux. Kim Jong-un, tu le crains-tu?
Ben oui, mais.
Ce sont des hommes.
Parce que du côté valeur, c'est pas les miennes, fait que je les crains pour toutes les raisons du monde.
Exact, mais si tu as Biden à côté de toi, tu vas lui donner une Paperman? Tu vas lui montrer le chemin pour qu'il puisse aller aux toilettes, mais tu ne le crains pas.
Je suis d'accord avec toi sur le fait de craindre, mais je pourrais aussi craindre quelqu'un en politique, admettons, qui a une main de fer dans un gant de velours, qui n'est pas quelqu'un qui parfois prend des décisions et fait des spectacles.
Mais qui tu prends aux États-Unis? Il n'y a personne à part
Trump. C'est ça, la partie qu'on est très orphelin politique.
Je vais vous conclure, justement, on est des orphelins. Pourquoi on entend parler? Pourquoi on entend parler des frasques de Poutine, de Kim Jong-un, à gauche et à droite? C'est parce que, c'est en raison d'un temps que je vous ai dit, la faiblesse de notre gouvernance occidentale. Ça se traduit toujours par une question économique. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, là, c'est pas parce que je parle de Trump que j'aime Trump. Ça me dérange même pas. Je suis Canadien, je suis pas Américain, même si je suis souvent aux États-Unis puis que je travaille beaucoup aux États-Unis. Donald Trump, en 2020, à un moment donné, il a reçu une lettre pour dire que Toyota a décidé de déménager son usine de fabrication des États-Unis vers le Mexique. Donald Trump est encore président des États-Unis. Il dit, moi, pas de problème avec ça. Allez les faire construire.
Vous ne les vendrez pas sur notre territoire.
Maintenant, si vous voulez les vendre sur notre territoire, les tarifs douaniers vont être de 337. Aujourd'hui, Toyota construit ses autos encore à quel endroit? Aux États-Unis. Ils n'ont pas déménagé. L'économie, est-ce que ça va bien présentement? Êtes-vous en train de me dire que ça va bien?
Non, mais ça, c'est un gars qui a été apprécié pour ça. Puis il a été élu là, en partie. Voilà. Moi, je me souviens d'un voyage avant que Trump soit au pouvoir. Puis je posais des questions aux Américains, puis des gens qui sont totalement brillants, mais encore tellement affectés par le crash qu'ils ont connu économique là, en 2008.
2018, c'est arrivé aussi.
Mais 2008, là, c'était vraiment celui-là qui était encore très poignant pour eux, avec le prix des maisons, ils ont tout perdu. Plein d'assurances qui sont tombées. Des gens qui se sont retrouvés dans des situations de pauvreté que jamais tu aurais pu comprendre et penser de ces gens-là. Puis c'est la seule chose qu'ils souhaitaient, c'est quelqu'un qui économiquement redresse les choses. Fait que quand t'es quelqu'un qui se présente en politique aux États-Unis puis qui en fait son point 1, sa grande marche, sa mission, c'est sûr, là, les gens attendaient ça. Là. Il a joué là-dessus, puis dans le genre, positivement. Il a fait des belles choses positives malgré tout, économiquement là, parlant, là, Donald Trump.
Mais on n'en parlerait pas de Donald Trump aujourd'hui s'il avait gagné les élections la dernière fois, si on n'avait pas parlé de la présidence américaine qui était déficiente depuis l'arrivée de Donald Trump. C'est un outsider de la politique américaine, ce gars-là. Il est arrivé là, il a ébranlé les colonnes du temple à Washington. Fait que c'est sûr que ça a brassé. Puis les démocrates, dans le fond, sont un peu, je te dirais, responsables de ce qui est arrivé. La seule personne qu'ils ont trouvé de bon à mettre là, c'est quelqu'un qui savait avoir des problèmes cognitifs en partant. On le voyait sortir des avions, on voyait qu'il avait un problème de rétention urinaire. Il y a un sac en permanence attaché après la cuisse gauche. On le prend. Quand on le voit descendre d'un avion, faut pas qu'il vente. Sans ça, on voit la culotte, son pantalon, le bas de son pantalon, la jambe gauche, venir coller sur
le sac. Ça n'a pas de bon sens. C'est d'une tristesse.
C'est d'une tristesse. Oui, on contrôle l'image, puis on ne veut pas donner cette image-là à travers le monde. Puis là, présentement, on est en train de prendre des décisions. Puis c'est sûr que dans le Parti démocrate, on essaie de trouver une façon pour pas qu'il se présente. Mais c'est un privilège du président actuel de se représenter. C'est arrivé avec C'est arrivé avec Roosevelt pendant la guerre. Il est mort dans son troisième mandat parce qu'il n'a pas eu d'élection pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort, puis c'est son VP, Truman, qui est arrivé, puis c'est lui qui a mis le doigt sur le piton pour faire sauter les bombes atomiques sur Hiroshima puis Nagasaki. Fait que, tu vois, là, on se retrouve dans une position où on a un président qui n'est plus là pantoute, puis sa vice-présidente, il n'y a pas personne qui en veut. Fait qu'on va aller au bat. On va espérer que tout se passe bien, puis que peut-être l'électorat, on va être capable de concentrer avec les collèges électoraux partout aux États-Unis, que la Californie, toute la côte ouest, ça va voter démocrate à pocheter, que du Maine quasiment jusqu'en Caroline du Sud, ça va voter démocrate également. C'est ce qu'on pense. On l'espère. Puis ça va arriver serré. Mais dans les chiffres, je te dirais, Biden devrait gagner avec à peu près 57 voix supplémentaires du collège électoral. Puis ça va se décider comme deux jours après le vote de l'élection.
Qui vivra verra. Louis Gauthier, chroniqueur international, un gros merci d'être passé.
Merci.
On se
reparle. Bonne semaine, Québec.
Je sais pas si on se reparle la semaine prochaine. Moi, je vais être en vacances.
Moi aussi.
Ben, je suis toujours disponible.
Ça va dépendre de Pascal.
Pourquoi ça va dépendre de Pascal?
Ouais, pourquoi ça
pourquoi
va dépendre
tes vacances dépendent de Pascal?
C'est elle qui me remplace.
Oui, puis elle fait ça de main de maître.
Ben c'est ça. On ne sait pas si elle va t'inviter pour la semaine prochaine.
Ah ben ça, c'est son choix.
Ben oui,
c'est elle qui sera l'animatrice, c'est elle qui sera aux commandes.
Tu viendras avec plaisir.
Ah, têteuse.
Quoi?
Têteuse. Green Day Basket Case. Merci, Louis.
Il est en forme,
salut,
aujourd'hui.
Salut, Québec!
Bye-bye. Tu t'es ennuyé de m'écœurer?
C'est quoi?
Tu t'es ennuyé de m'écœurer. C'est pour ça que tu m'as écrit hier « Bon retour aux enfers ».
En enfer.
Aux enfers.